Bonjour tout le monde, c'est touchant, hein? Ce matin, on va assister à deux baptêmes. Fait que vous n'avez pas fini d'être touché ce matin. On va assister à deux baptêmes. Puis, lorsqu'on assiste à des baptêmes, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on va entendre leurs témoignages de Monica, de Maxime, leur cheminement, tout ça. Et en passant par les eaux du baptême, ils sont en train d'afficher publiquement leur décision de marcher avec Christ et sont en train de nous partager un peu ce que Dieu a fait dans leur vie jusqu'à présent. Et donc, lorsqu'on assiste à des baptêmes, bien, la perspective qu'on peut avoir, c'est surtout comme la part humaine de tout ça. On parle d'une conversion au christianisme. Il y a un élément qui est humain dans tout ça. Et j'avais à cœur ce matin, on fait une pause dans Malachie, j'avais à cœur d'aller voir dans Éphésiens, dans la lettre de Paul aux Éphésiens, la part de Dieu dans ça, pour mettre les choses en perspective. Et voir que c'est vraiment une œuvre de grâce qui se passe à travers ça. Alors, Jérémie va nous lire une portion de la lettre de Paul aux Éphésiens. Vous pouvez tourner avec nous dans vos Bibles, si vous le voulez, dans Éphésiens 2, les versets 1 à 10. On va écouter ensemble, puis on va aller voir la part que Dieu prend dans notre cheminement, dans notre conversion. Écoutons la parole de Dieu.
Le passage biblique de ce matin est tiré du livre d'Éphésiens, au chapitre 2, versets 1 à 10. De la nouvelle édition de Genève. Éphésiens au chapitre 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Merci Jérémie, on va prier ensemble. Père éternel, merci pour les beaux témoignages, les beaux baptêmes auxquels on va assister. Merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Et ce matin, alors qu'on... On va entendre ces témoignages, qu'on va voir Maxime et Monica se faire baptiser. Seigneur, on veut plonger un peu plus dans la beauté de l'Évangile, dans l'œuvre que toi tu accomplis, dans le cœur d'un individu, dans la vie, dans l'âme d'une personne lorsqu'elle devient chrétienne. Seigneur, je te prie de nous aider à saisir la beauté de cette œuvre-là afin que tout le monde ici dans cette pièce, Seigneur, puisse être touché par ton amour, et que les chrétiens puissent puiser dans l'Évangile la motivation, le zèle, la joie, la reconnaissance pour marcher dans tes voies, Seigneur. On te prie spécialement pour Maxime, pour Monica, on te demande, Seigneur, d'être avec leur cœur ce matin, mais non seulement ce matin, mais tous les jours de leur vie, Seigneur. Dès aujourd'hui, tous les jours de leur vie, sois avec eux, accompagne-les, fais-les grandir en Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Amen. Vous savez, chrétien ou non, la vie est pas facile. Dans une journée, on prend 1000 décisions, il y a toutes sortes de choses qui se promènent dans notre tête, puis on pense, puis selon ce qu'on est en train de penser à un moment ou à un autre de la journée, on va réagir, on va agir de différentes manières, selon ce qui est en train de se passer dans notre tête. Puis on va répondre à ça. Lorsque l'apôtre Paul commence sa lettre aux Éphésiens, au début de la lettre, on n'a pas tout lu ce matin, ça aurait été beaucoup trop long, mais au début de la lettre, Paul commence en louant Dieu. Il est en train, pas louer comme rent-a-car, tu sais, mais en train de dire des louanges à Dieu. Il est en train d'élever le nom de Dieu, puis il est en train de dire, waouh, c'est incroyable ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. L'œuvre que Dieu a fait lorsque Jésus-Christ est venu mourir à la croix, c'est absolument extraordinaire. Puis Paul flotte, OK? Il y a une longue, longue phrase de comme 14 versets là-dedans où Paul s'arrête pas en réalité en grec. Il arrête pas de parler jusqu'à temps qu'il trace son point parce qu'il est exalté complètement. Il est en train d'adorer Dieu. Puis il dit, c'est génial ce que tu as fait. Puis lui, il flotte. Puis après ça, Paul fait quelque chose. Après ça, Paul dit aux Éphésiens, aux chrétiens de la ville d'Éphèse, à qui il a écrit cette lettre-là, il a dit, maintenant, à la lumière de tout ça, je prie pour vous. Je prie pour vous qui connaissez l'Évangile, je prie pour que vos cœurs soient éclairés et que vous saisissiez la grandeur de l'espérance que vous avez en Jésus-Christ, que vous plongiez dans l'Évangile, que vous appréciez, que vous voyez la grandeur et la beauté de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie en votre faveur. Parce que Paul a la conviction que lorsqu'on saisit la grandeur et la beauté de l'Évangile, il y a plein de choses qui deviennent possibles dans nos vies au quotidien. Vous savez, tous les jours, on se pose toutes sortes de questions, des questions du genre... Pourquoi est-ce que je déciderais d'être content ou contente, reconnaissante pour tout ce que Dieu m'a donné au lieu de chialer? Pourquoi je déciderais ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je résisterais à la tentation d'aller regarder de la porno sur le web? Pourquoi est-ce que je céderais ma place à table? Pourquoi est-ce que je choisirais d'ouvrir ma Bible en commençant la journée pour méditer et puis pour lire? Pourquoi est-ce que je choisirais de supporter un collègue de travail qui s'est mis dans le trouble? C'est son problème qui nous a mis dans le trouble, toute l'équipe. Puis là, toute l'équipe doit payer pour lui. Puis être là pour lui. Pourquoi j'embarquerais là-dedans? Pourquoi est-ce que je me lèverais ce matin pour aller travailler puis pour aller me chercher une job en laissant les inquiétudes de côté? La conviction de Paul, c'est que lorsque tu saisis la beauté et la grandeur de l'Évangile, la réponse, la première réponse à tous ces pourquoi-là, c'est parce que Dieu m'a aimé en Jésus-Christ. Et il m'a appelé maintenant à vivre différemment de ma vie passée, à vivre non plus pour moi-même, mais pour lui, parce que j'ai été créé en Jésus-Christ comme une nouvelle créature. Et ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'au-delà des apparences, le cheminement de Maxime, de Monica à travers leur témoignage, tout ça, au-delà des apparences, la conversion au christianisme, c'est une œuvre de grâce de la part de Dieu. Puis la marche dans la vie chrétienne, c'est aussi une œuvre de grâce de la part de Dieu, pas vraiment une œuvre humaine, même si l'être humain a une part à prendre là-dedans, puis il doit décider de croire, puis il doit décider de marcher avec Dieu. Et comprendre ça, c'est comprendre pourquoi je vais décider de vivre autrement tous les jours. C'est comprendre la décision de Monica et de Maxime ce matin. Tournez avec moi dans Éphésiens 2, si vous n'y êtes pas déjà. Paul commence cette section-là en revisant, en revoyant l'Évangile avec les chrétiens d'Éphèse, d'accord? Puis il commence avec quelque chose d'assez drastique, d'assez dur à accepter, d'assez dur à entendre. Les versets 1 et 2, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. En d'autres mots, là, si je lisais tous les versets, Paul est en train de dire « Vous étiez étrangers à Dieu. » Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Il est très drastique. Puis il dépose un jugement sur tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Alors, si c'est votre cas ce matin, vous dites, « OK, c'est fini, je décroche. » Attends un petit peu, reste avec moi encore. Parce qu'un tout petit peu plus loin, au verset 3, Paul va dire ceci, « Nous tous aussi, nous étions de leur nom. » C'est vraiment important de comprendre ça. Lorsque Paul dit, « Vous étiez morts par vos péchés, par vos offenses », il dit aussi, que tout le monde était dans le même bateau. Que tout le monde était dans le même bateau. On a l'impression, souvent, on a une image ici en Occident, que le christianisme, c'est une religion, c'est une patente pour des blancs occidentaux de classe moyenne ou pauvres qui ont été endoctrinés dans cette manière-là de voir le monde. Puis Paul est en train de dire ici que tout le monde était dans le même bateau. Et il ne fait pas de classe, il n'est pas en train de dire il y a des gens qui sont bien dans la société, puis il y en a d'autres qui sont mal pris. Eux autres sont morts à Dieu, sont morts dans leur péché, parce que leur style de vie, ce n'est pas un style de vie adéquat. Tout le monde est dans le même bateau. Sans aucune catégorie, ne jugeant pas les gens selon leur style de vie, leur âge, leur sexe, leur origine, les gens religieux, les mafieux, les gens ordinaires, les sportifs, les geeks, les riches, les pauvres, les addicts, les straight, les cool, les kittens, les gays, les hétéros, toute la gang dans le même bateau. Toute mort à Dieu. Tout le monde. Mort à Dieu parce que tout le monde, pécheur, offense en Dieu. C'est vraiment important de saisir ça. Puis en fait, si je n'accepte pas ça, c'est pas vraiment possible de devenir chrétien. Si je pense que le christianisme, c'est une manière de penser autrement qui fit avec certaines personnes, puis certaines personnes vont se reconnaître là-dedans, mais c'est pas pour moi, c'est que fondamentalement, j'ai pas saisi encore que tous les êtres humains, par nature, sont morts à Dieu, sont étrangers à Dieu. On va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire. On va développer ça un petit peu ensemble. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. De quoi il parle ici? Regardez avec moi le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Paul utilise deux termes différents ici. Offense, ça c'est bien rendu en français. C'est lorsque je vais faire quelque chose qui est contre Dieu, contre la pensée de Dieu. Je vais aller à l'encontre de Dieu. C'est actif, c'est pas passif. C'est Dieu me dit que ça c'est bien, ça c'est mal. Et dans un acte de rébellion, je décide que c'est là que je m'en vais. C'est de ça qu'il est question lorsqu'on parle des offenses ici. Et lorsqu'il parle des péchés, c'est plus passif. Ça parle de cette idée que Dieu a des standards, Dieu est une personne sainte, une personne aimante, une personne généreuse. Et malgré tous mes efforts par moment d'atteindre ça, parce que je suis inspiré au bien, je suis inspiré à être généreux, je suis inspiré à être miséricordieux, je suis inspiré à pardonner, j'arrive pas à me rendre là. Je manque la cible, je manque le but. Et donc, il y a comme ces deux aspects-là ici, dans cette mort-là, où parfois on est activement opposé à Dieu et parfois on est passivement incapable de faire même les choses les plus nobles auxquelles on aspirerait dans notre cœur. Et ça, c'est une vérité pour tout le monde, chrétien, non chrétien. Tout le monde, il y a des moments où on aspire à faire des choses qui sont bien. On voit des choses bonnes et on aspire à les faire, puis il y a quelque chose en nous qui fait qu'on n'arrive pas à se rendre là. Et tout le monde, il y a des moments où on comprend ce qui serait la bonne chose, mais intérieurement, on est rebelle à ça. Je ne veux pas faire ça. Je suis activement rebelle à ça. Et je pense que une chose qui change lorsque tu deviens chrétien, c'est qu'au fur et à mesure que tu apprends à lire la parole de Dieu, tu apprends à connaître Dieu, l'Esprit de Dieu habite en toi, disons que ta conscience est plus aiguisée. Fait que c'est vrai. C'est vrai que si tu jases avec un chrétien, tu vas dire, lui, il est comme toujours en train de me parler de ses manquements, de ses péchés. On dirait des fois qu'il est plus misérable que moi parce qu'il est conscient de ou je sais pas, il arrête pas de me dire que ça, c'est pas bien ce qu'il a fait, puis tout ça. Effectivement. Je pense que c'est une chose qui change lorsque je deviens chrétien. Je m'approche de Dieu. Et plus je m'approche de Dieu qui est saint, qui est pur, qui est parfait, qui est amour, qui est bonté, qui est grâce, qui est sainteté, qui est justice, plus je m'approche de lui, mes faiblesses, mes manquements, mes péchés, mes offenses sont exposés, sont mises à jour, à nu. Et je suis confronté à ça. Mais en même temps, Paul va plus loin que ça. Paul va plus loin que ça parce qu'il dit, avant, vous suiviez. Vous étiez morts, vous suiviez le courant de l'époque, vous suiviez la pensée du siècle, vous marchiez autrement, au verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et c'est vrai qu'en devenant chrétien, j'apprends à lire les Écritures, puis chaque semaine, je suis des trucs sur les nouvelles, puis je regarde les choses, comment ça se passe, puis c'est vrai qu'il y a des choses où je me dis, mais quelle folie, ça n'a aucun bon sens. Je regarde, par exemple, l'avortement. Puis je comprends pas. Je comprends pas que, par exemple, si les femmes ont été effectivement oppressées beaucoup, elles ne deviennent pas les protectrices à ce moment-là. Puis les hommes ne deviennent pas les protecteurs de ces petits êtres-là. Fait que je regarde le monde, puis il y a des choses que je comprends pas. C'est comme s'il y a une folie inhérente qui est là dans le monde. Il y a comme quelque chose de profondément débalancé. Puis je ne le voyais pas avant. Je n'étais pas conscient de ça de cette manière-là. Je pouvais vivre par moments de la culpabilité, mais en même temps, j'étais comme à fond dans cette vision-là du monde, puis j'étais engagé dans cette vision-là du monde. Autrefois, c'était comme ça que j'étais. Et lorsque Paul parle de mort, de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Les gens sont vivants. Les gens ne sont pas morts, ils sont vivants. Il ne parle pas de mort, pas ici. Ici, il ne parle pas de la mort physique du tout. Ailleurs, les Écritures nous disent que l'homme ne vit pas éternellement parce que Dieu a prononcé un jugement sur lui. Ce n'est pas de ça dont il est question ici. Il ne parle pas de la mort physique. Est-ce qu'il parle de la mort psychologique? De quoi il parle? Il est en train de dire, je pensais à ça, la question spirituelle, quelqu'un l'a mentionné. Même là, je fais attention parce que, chrétien ou non, tu as une vie spirituelle. Cette dimension-là de cette aspiration à une spiritualité. Écoutez, on pensait qu'avec le 21e siècle, la fin du 20e siècle, les religions allaient s'éteindre. Beaucoup de penseurs disaient cela. Ils disaient, on est rendu à l'époque de la raison, l'époque des Lumières a fait son chemin, on est à l'époque de la raison. Dieu est mort, on n'a plus besoin de Dieu. C'était sans compter sur le fait que chaque être humain a vraiment une dimension spirituelle. Pose des questions existentielles sur le sens profond de la vie, sur le sens de son existence. Refuse l'idée fondamentale qu'on est juste de la matière sans aucun sens. On veut trouver le sens à notre existence. Si on est juste la matière, le bien, le mal n'existe pas. Il n'y a pas de fondement pour construire une idée du bien et du mal. On est juste de la matière. Tout est sans conséquence. C'est pas grave. C'est pas grave que des politiciens soient corrompus. Ça n'a aucune gravité. Le bien et le mal n'existe pas si on est juste de la matière. Mais profondément, on sait que c'est pas vrai. Puis il y a des injustices qu'on voit qui sont des injustices objectives. T'as beau me dire qu'on est juste de la matière intérieurement, profondément. Je sais que c'est une injustice. Alors, on pensait que la foi, la spiritualité était quelque chose qui allait disparaître avec l'avènement de la raison, les lumières. La spiritualité va mourir. C'était sans compter que l'être humain a une âme, est un être éternel fondamentalement, est un être qui pose des questions existentielles et qui veut comprendre le sens de son existence. Nous sommes des êtres spirituels. Alors, qu'est-ce qui est mort? Et Paul nous dit, on était étranger à Dieu. Tout ce que Dieu a fait de bon, on le ramenait vers nous-mêmes, pour nous-mêmes. Comprenant que, waouh, c'est extraordinaire de vivre sur la terre, puis c'est génial, je peux faire un paquet d'affaires, au lieu de dire, Dieu, comment est-ce que je pourrais être glorifié avec ça, je pose la question, à quoi ça peut me servir, moi? Et profondément, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai dit, lorsque Paul nous dit qu'on est tous dans le même bateau, on est littéralement tous dans le même bateau. Vous savez, des fois, on parle avec des gens, puis il y a des gens qui disent, non, mais moi, j'ai toujours cherché Dieu, puis je cherchais Dieu, puis tout ça. Puis moi, je suis croyant, puis... Oui, mais c'est drôle. Je peux parler avec quelqu'un qui me dit, moi, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. Puis lorsque je commence à lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, telle qu'on trouve dans les Écritures, pas ce que la culture t'a enseigné sur Jésus, je commence à lui prêcher l'Évangile, je commence à lui dire, regarde, t'es mort dans tes péchés, puis t'as juste la grâce pour être sauvé. Puis la personne résiste à ça, parce qu'elle est étrangère à Dieu. C'est pas parce que la personne est religieuse, qu'elle va dans une église tous les dimanches, qu'elle soit catholique ou baptiste, que la personne est chrétienne. Tu peux venir ici tous les dimanches puis être mort à Dieu. Parce que dans ton cœur, il n'y a pas ce désir-là de reconnaître que Dieu est souverain sur ta vie, que c'est Dieu le Créateur, que tu veux marcher dans ses voies et que tu vas le faire par sa grâce. Et si ça, c'est pas là dans ton cœur, je sais que c'est drastique, mais je suis pas là pour te flatter, je suis là pour te dire la vérité. T'es mort. T'es mort à Dieu. T'es bien vivant. T'es quelqu'un, une créature extraordinaire, nous dit la parole de Dieu. Mais une créature qui n'a pas compris et qui ne vit pas de la manière pour laquelle elle a été créée, qui n'a pas compris son Créateur, qui ne l'a pas connu. Et donc, tu es mort à Dieu, c'est ce que les Écritures nous disent. Ainsi, par nous-mêmes, on était mort. C'est pour ça que je voulais aller là ce matin, alors qu'on va voir tout à l'heure les témoignages, les baptêmes, tout ça, puis c'est touchant, puis on voit leur cheminement, puis c'est génial. C'est comme la part humaine de tout ça. Mais j'ai besoin de saisir comme point de départ qu'on était mort. Un mort ne se ressuscite pas lui-même. On était mort, on était étranger à Dieu. Paul va dire ailleurs, « Nul ne cherchait Dieu. » Alors même chez ceux qui sont religieux, lorsqu'on leur prêche l'Évangile, on le voit, on est confronté au fait qu'en réalité, ils vont résister à l'Évangile généralement. Ils vont résister à l'appel de la grâce parce qu'ils veulent gagner leur ciel, ils veulent faire des œuvres. Et donc, ils sont encore morts à Dieu, même s'ils sont religieux. Ainsi, par nous-mêmes, nous ne pouvions venir à Dieu changer de vie parce que cette vie-là, c'est Dieu qui l'a placée en nous. C'est Dieu qui l'a fait pour nous. Regardez avec moi le verset 4. Éphésiens 2, 4. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants avec Jésus-Christ. » Dieu dans sa grâce, Dieu dans son amour, m'a regardé alors que j'étais mort à Dieu. J'étais mort, oui, spirituellement. J'étais ennemi de Dieu, vont nous dire les Écritures ailleurs. C'est dur à accepter. Puis Dieu dans son amour a déposé sur moi un regard de pitié, de miséricorde. Il m'a aimé, puis il est venu me sauver. Et je crois que cette vérité-là est probablement la plus difficile à accepter dans tout l'Évangile. Parce que fondamentalement, on ne veut pas accepter qu'on a besoin d'être sauvé. Profondément accepter que Dieu devrait déposer un regard de pitié sur moi, c'est révoltant intérieurement. Dieu il n'est juste pas là. Dieu n'est juste pas visible. Dieu m'a donné la vie, mais il n'est pas là quand j'ai besoin de lui. Il est où Dieu avec tous les problèmes dans le monde? On est dans un procès perpétuel avec Dieu. Dieu, s'il existait, il ferait les choses autrement. Parce que moi, je le sais, si j'étais Dieu, ça se passerait autrement. Puis venir à l'Évangile, c'est accepter que je ne peux pas aller en procès contre Dieu. C'est Dieu. Lui est amour, toi, tu n'es pas amour. Toi, t'aimes de temps en temps. Lui est amour. Lui est saint. Il fait toujours la bonne chose, juste, droite. Pas toi, de temps en temps, de temps en temps. Dieu est compassion et Dieu est miséricorde. Puis c'est à cause de son amour, pas parce qu'il a regardé en nous puis il a dit « Wow, il y a quelque chose là ». J'ai besoin, Paul est en train de nous rappeler ça, les chrétiens, pourquoi? Parce qu'à tous les jours, j'ai besoin de me rappeler que Dieu n'est pas tombé en amour avec moi parce qu'il a dit « Oh, check, le boy, man, lui, je veux l'avoir avec moi ». Jamais. Il a vu un cadavre. C'est pas beau un cadavre, je suis désolé là. C'est ça qu'il a vu. Il n'est pas tombé en amour avec des cadavres, je suis désolé, non. Non, non. Il est venu nous sauver, puis il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie, mais c'est poussé par son amour qu'il l'a fait. C'est entièrement par sa grâce. Notre réflexe à nous, c'est toujours d'être dans une, de revenir à une transaction avec Dieu. Je vais transiger avec Dieu son amour. Je vais gagner son amour. Je vais mériter son amour. Je vais mériter sa grâce aujourd'hui. Je vais essayer d'être un bon chrétien aujourd'hui. Je vais essayer d'être sa coche aujourd'hui. Que le Seigneur puisse me faire un sourire et dire « Way to go, man! Tu l'as réussi. Man, tu l'as mis dedans. » C'est notre réflexe. Et au contraire, l'apôtre Paul insiste, ce n'est que par grâce. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un cadeau que Dieu fait parce qu'on était morts. Un mort ne se ressuscite pas d'entre les morts. C'est Dieu qui vient puis qui donne la vie. Et dans le fond, ce que Paul développe ici, que je ne vais pas vraiment développer ce matin, c'est que l'œuvre que Jésus a accomplie en mourant sur la croix, volontairement, en s'offrant en sacrifice à la croix, cette œuvre-là où Jésus, qui était lui sans péché, est venu mourir sur la croix, a été mise en terre. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Puis ensuite de ça, Christ est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu. Toute cette œuvre-là nous est appliquée à nous lorsqu'on croit en Jésus-Christ. Et c'est ça que Paul développe ici. La vie que tu as comme chrétien, c'est pas parce que tu es un bon chrétien, il y en a juste eu un bon chrétien, c'est Christ. C'est parce que la vie de Christ est appliquée. Le pardon, l'amour de Dieu que Dieu te donne, c'est pas parce qu'il t'a trouvé beau, fin, cute, puis super génial. C'est parce que Christ a payé le prix à ta place. C'est l'amour de Dieu en Jésus-Christ qui t'est appliqué à toi. Et donc, c'est ça que Paul développe ici. La possibilité pour moi de vivre une vie nouvelle maintenant, c'est parce que Christ est ressuscité d'entre les morts, il est à la droite de Dieu, et cette vie-là de ressuscité, Dieu me l'applique à moi, d'une manière surnaturelle, mystérieuse, mais bien réelle. Je suis maintenant ressuscité. Faut le vivre pour le comprendre. Faut le vivre à tous les jours lorsque l'Esprit de Dieu me montre que je suis dans le péché, me rappelle la grâce, je me repens, puis me donne un zèle pour marcher dans la sainteté. Lorsque Dieu m'aide à pardonner des choses impardonnables, lorsque Dieu m'aide à accepter que je suis un pécheur, dans le langage aujourd'hui, on va dire se pardonner. Ben oui, se pardonner, c'est dire, je suis vraiment un pourri, puis je suis vraiment sauvé par grâce. Je trouve tout ce qu'il faut là-dedans pour me pardonner, tout ce que j'aime pardonner. C'est bien réel, c'est mystérieux, cette vie nouvelle, cette résurrection-là, mais elle est bien réelle. Et ceux qui l'ont expérimenté ici dans la salle savent de quoi je parle. C'est réel, c'est quotidien, c'est là tous les jours. Il y a une vie nouvelle spirituelle en moi qui est là, qui est manifeste à travers ma vie. J'étais mort à Dieu, je vivais dans mes péchés, dans mes offenses, je suivais les pensées de l'époque, j'étais centré sur moi-même. Et Dieu, dans sa grâce, m'a ressuscité d'entre les morts. Uniquement par grâce. Pas parce qu'il a regardé en moi et il a dit, hey, lui, il ferait un bon chrétien un jour. Uniquement par grâce, Dieu m'a ressuscité d'entre les morts. Et on termine avec ceci. Il nous a ressuscité d'entre les morts, pas simplement pour faire un sauvetage. Tu sais, quelqu'un qui était prêt à se noyer, puis il est rendu bleu. J'écoutais le témoignage d'un monsieur qui faisait des exercices, puis il faisait des exercices où il retenait son souffle. Il a perdu connaissance en nageant. 3 minutes au fond de la piscine. 3 minutes. Il n'était plus de la même couleur, vous comprenez? Quand ils l'ont sorti. Ben, c'est ça que Dieu fait avec nous. Il n'est plus de la même couleur. Puis Dieu ne vient pas simplement nous sortir de l'eau puis nous ramener à la vie. Dieu nous crée. Dieu nous recrée en Jésus-Christ. Je deviens une nouvelle créature. Je marchais comme ça avant, selon la pensée de l'époque, selon mes convoitises, selon mes désirs. Je prenais toutes choses bonnes que Dieu a créées puis je les ramenais à moi. Dieu m'a donné de la force pour travailler, j'ai un travail. Je ramenais ça pour moi au lieu de dire, aïe, Dieu m'a donné tout ça pour que je puisse partager. Dieu m'a donné du temps, c'est un temps pour m'accomplir au lieu de servir Dieu, le glorifier. Tout ça, tout ce rythme-là, ce style de vie-là, Dieu est venu, j'étais mort à Dieu, c'était comme ça que je pensais. Je suivais l'époque, je suivais les temps. Puis Dieu m'a ressuscité d'entre les morts. Il ne m'a pas réchappé. Il m'a recréé. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que vous voyez que Paul ferme sa boucle? Autrefois, vous marchiez comme ça, vos œuvres étaient celles-là. Vous étiez étrangers à Dieu. Vous ne connaissiez pas Dieu, vous ne compreniez pas Dieu. Peut-être un Dieu que vous imaginiez, mais pas le Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ à travers la parole de Dieu. Vous marchiez comme ça, c'était vos œuvres. Dieu vous a ressuscité d'entre les morts, vous a donné une vie nouvelle pour que vous fassiez d'autres œuvres maintenant, que vous marchiez autrement. Il vous a créé en Jésus-Christ pour que vous pratiquiez de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Dans quelques minutes, on va assister au baptême de Monica et Maxime. On va entendre leur témoignage, puis à travers leur témoignage, ils vont nous dire comment ils ont connu Dieu, puis comment ils ont commencé à marcher avec Dieu. Ils sont entrés dans une nouveauté de vie. Le baptême illustre ça par l'immersion, lorsque les gens sortent de l'eau, cette nouvelle vie qui commence en eux, ces bonnes œuvres auxquelles ils sont appelés. Maintenant, tous les jours, Maxime et Monica vont se poser toutes sortes de questions. Est-ce que je déciderais d'être contente, content, reconnaissant pour tout ce que Dieu m'a donné au lieu de chialer? Peut-être qu'ils vont se poser des questions comme « Pourquoi est-ce que je devrais céder ma place? » Peut-être, je ne connais pas leur vie personnelle, ils pourraient se poser des questions comme « Pourquoi est-ce que je résisterais à la tentation de regarder de la porno sur le web? » Pourquoi est-ce que je choisirais d'ouvrir ma Bible en commençant la journée pour lire et méditer? Pourquoi est-ce que je choisirais de supporter un collègue de travail qui s'est mis dans le trouble puis qui a mis toute l'équipe dans le trouble puis que je choisirais juste d'être là pour lui? Pourquoi est-ce que je me lèverais le matin pour aller travailler, pour aller me chercher un job en laissant de côté mes inquiétudes? En Jésus-Christ, Dieu leur a donné une réponse. Parce que Dieu t'a aimé. De mort que tu étais étranger à Dieu, il t'a ressuscité. C'est un acte de grâce. C'est Dieu qui l'a fait. Tu n'aurais pas pu le faire par toi-même. Mais Dieu est allé te sauver. Il t'a donné maintenant la vie de Jésus-Christ. Tu as été créé en Jésus-Christ et il a préparé des bonnes œuvres pour toi. À tous les jours. Et chaque fois que ces questions-là viennent dans nos têtes, Dieu est en train de nous montrer les bonnes œuvres qu'il nous a appelées à pratiquer. Chaque fois que la question vient, Dieu est en train de me montrer une bonne œuvre qu'il m'a appelé à faire. Pourquoi est-ce que je la ferais? Parce que Christ est mort pour moi sur la croix, parce que je ne vis plus comme avant lorsque j'étais étranger de Dieu, mais parce que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et ça, ça se prend par la foi. Il n'y a pas de cours pour comme resetter ta manière de penser, puis on va te formater ça, tu vas devenir un chrétien. On va changer une chip dans ta tête, on va t'endoctriner. Il y a quelque chose de mystérieux quand Dieu opère ça. On annonce l'Évangile des chrétiens à nos enfants pendant toute leur jeunesse, toute leur enfance. On leur prêche l'Évangile. On attend ce moment où on espère, on prie, où Dieu va venir faire ça. Certains à 5 ans, d'autres à 20-quelques années. C'est une œuvre de Dieu. Alors cette semaine, lorsque Dieu va amener ces questions-là dans ton esprit, puis tu vas te demander pourquoi est-ce que je ne ferais pas comme le monde? Parce que tu n'es plus du monde. Tu n'es pas du monde. Tu es chrétien. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour l'œuvre que tu as commencée en nous, en Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, c'est dur à entendre, c'est dur à accepter l'idée que même si je suis un être humain avec tout mon potentiel, toutes mes capacités, mes talents, mes dons, mes compétences, Je suis étranger de Dieu. Je ne te connais pas. Et Seigneur, ce matin, peut-être que tu parles à certains à travers ton esprit, tu parles à leur cœur et tu leur donnes cette conviction parce que de plus en plus, ils voient concrètement dans leur vie en quoi ils sont étrangers à toi, Seigneur. Tu leur révèles des péchés, des offenses. Tu leur montres là où ils manquent d'être vraiment saint, de marcher avec toi. Tu leur montres leur rébellion lorsqu'ils ne veulent pas, Seigneur. Viens opérer ta grâce, Seigneur. Comme Maxime et Monica, qu'ils puissent connaître l'Évangile de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, faire ta part à toi, qui est la véritable part, Seigneur, dans la conversion au christianisme, lorsque tu viens opérer ce miracle où on accepte ta miséricorde, ta grâce, ton pardon. Humblement, on accepte qu'on est pécheur, qu'on a failli et qu'on faillira toujours d'une manière ou d'une autre. Et on accepte ta grâce, Seigneur. Viens, Seigneur, sauver. Viens donner cette vie, Seigneur, nouvelle. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as commencée dans la vie de Maxime et Monica. Merci pour ce à quoi on va assister, Seigneur. On veut chanter tes louanges ce matin. On veut élever ton nom parce qu'on veut se réjouir avec eux. On veut reconnaître l'œuvre merveilleuse que tu as commencée dans leur vie et que tu as faite dans nos vies, Seigneur. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Amen.